7h18, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, ce matin, premier dossier, c'est une affaire assez incroyable. David Bazoff, qui était accusé là, de délit d'initié, donc d'avoir fait des transactions en ayant en sa possession des informations privilégiées. Il y a un juge qui vient d'arrêter le procès et qui ramasse l'AMF au passage.
En fait, il dit, l'AMF, vous avez mal géré votre affaire.
Ouais.
Et ce qui est drôle, c'est que ça me rappelle le film Wall Street avec Michael Douglas qui jouait Gordon Gekko. Évidemment, à la fin, le gars qui fait un délit d'initié se fait pogner, il va en prison et les méchants sont emprisonnés. Bon, ici, on dit pas que David Bazoff est coupable. On dit simplement que la procédure de délit d'initié est tombée pour des raisons techniques dans un procès. Et un délit d'initié, Paul, c'est une accusation extrêmement grave dans le monde de la finance.
Faut juste rappeler une chose pour les gens qui ne le savent pas, oui. Là, c'est la grosse transaction qui a permis à son entreprise de mettre la main sur PokerStars.
Oui, et pour beaucoup de gens, PokerStars, c'est quand ils regardaient un match de boxe, il y avait ça de tatoué dans le dos des boxeurs, temporairement. Donc, c'est une entreprise de poker en ligne, je vais te parler des résultats tantôt, c'est très payant. Et PokerStars a fait monter évidemment la valeur de l'entreprise rapidement au Québec, des meilleurs à l'époque, qui est devenue Group Stars, ou Star Group, excuse. Et finalement, derrière ça, il y a quoi? Il y a un délit d'initié potentiel, c'est-à-dire des gens qui auraient eu des informations privilégiées avant la transaction. Et quand tu sais ça, t'es exposé à un délit d'initié si tu transiges sur le titre. Beaucoup de gens peuvent faire des délits d'initié quotidiennement. Des gestionnaires de grandes entreprises, des auditeurs externes, des CPA qui vont vérifier des entreprises sont souvent très au fait d'acquisitions futures ou sont impliqués dans l'acquisition. Donc, eux, leur famille, leurs amis ne peuvent pas transiger en s'échangeant de l'information. Évidemment, il faut prouver qu'il y a eu échange d'informations. Si moi, Paul, j'ai une information privilégiée, que je te rencontre dans un bar et que j'ai vérifié qu'on n'avait pas de micro, ni toi ni moi, puis je te dis, sais-tu, Paul, achète l'entreprise, j'ai un tuyau. Techniquement, je viens de faire un délit d'initié si moi, j'avais été exposé à des données non publiques qui permettent à des gens de faire de l'argent. Et dans ce cas-ci, on nous dit, bon, ça a avorté, mais c'est une histoire de millionnaire. Et ce qui est très drôle, c'est que ça me ramène à une entrevue de Nathalie Petrovski, qui disait, David Bazoff a la gueule d'un acteur d'Hollywood. C'est, elle le verrait dans Grey's Anatomy. Et ce qui était drôle un peu, c'est que moi, il me faisait penser à Gordon Gekko. C'est ça, c'est quelqu'un qui a potentiellement, pour lui ou pour des amis, peut-être, ou pour des contacts, fait un délit d'initié. On sait pas, nous, on est observateurs externes, mais ça fait plusieurs années que c'est sur les planches. Et dans l'entrevue de Nathalie Petrovski en 2016, il disait « Ouais, j'ai une poursuite de l'AMF, là, mais t'sais, c'est normal, c'est une grosse transaction. Moi, j'ai rien à me reprocher. On a fait une enquête interne, puis moi, je suis clean. » T'sais. Mais qui dit vrai, qui dit faux, je sais pas. Mais chose certaine, on parle ici d'un procès qui avorte pour des technicalités.
Et est-ce que c'est payant pour PokerStars?
Hey, payant, Paul. Pour un trimestre, 393 millions de revenus, OK? Mm-hmm. Bénéfice net de 74 millions. Donc, aïe. Tu fais que, hein, c'est pas pire, hein? Mais mieux que ça encore, Paul. Et c'est la ligne qui va te faire sourire. Combien en impôts selon les états financiers pour un trimestre?
Je sais pas.
OK, attache ta tuque, 1,2 million de dollars.
OK.
Tu sais, sur 75 millions. 1,2 million de dollars. Moi, un taux d'impôt de même d'entreprise, je le prends n'importe quand. Dans
on
mon
se demande pays. Comment ils peuvent faire ça. Hein? Ça doit être.
Mais c'est parce que, tu sais, on s'entend, là, les serveurs doivent être à quelque part,
ben
là,
oui,
doivent être enregistrés
ben oui,
dans
oui.
Un État américain bizarre. Puis, tu sais, c'est un no man's land, le poker en ligne. Hein? Est où la transaction, Paul? Es-tu à Longueuil ou est-tu allé au Delaware? Donc, on ne sait pas.
Volet finances personnelles de la F1, voiture de luxe ou immeuble?
Ben oui, Paul, il y a des gens qui me disent « Hey, là, c'est le Grand Prix. Je devrais-tu m'acheter ma voiture de luxe? » Puis là, on niaise, puis ils m'appellent, puis ils m'ont des courriels, tu sais, puis ils me disent « Pierre-Yves, 80 000 dans une vie, c'est quoi? » Ben, je dis premièrement, 80 000 au Grand Prix, tu flashes pas, tu sais. T'es le pauvre de la gang. Moi, la meilleure façon d'avoir de la riche au Grand Prix, c'est de sortir de Montréal. Donc, quand t'es à Montréal, mettons que tu veux t'acheter ta voiture de 80 000. Et donc, j'ai fait le parallèle avec un immeuble. Je me suis dit, si la personne utilise ce 80 000-là pour mettre 20 % de mise de fonds sur un immeuble à revenus. Jean et Martin, qui sont deux personnes qui font des choix opposés. Jean achète un immeuble à revenus, Martin s'achète une voiture de luxe. Ben Jean, dans 35 ans, s'il met juste la décision de signer un contrat hypothécaire au lieu d'un contrat de voiture, va avoir plus de 800 000 $ avec un rendement de 2 % là, genre l'inflation en valeur potentielle à la retraite, et l'autre, il n'y aura plus rien. Et c'est ça qui est fou un peu. Imagine une décision dans ta vie qui génère un millionnaire et un non-millionnaire juste pour une voiture, juste pour un moment, juste pour un glitch au cerveau à un moment. Donc, vous pouvez être extrêmement riche pour se payer une voiture de luxe. Et j'ai fait d'autres calculs. En assurance, par exemple, la voiture de luxe coûte plus cher. L'immatriculation coûte plus cher parce que on nous rattrape là-dessus. Une voiture de luxe coûte plus cher à immatriculer. On a aussi une dépréciation, tandis que l'autre s'apprécie. Et surtout, même l'immeuble à 800 000 $ une fois qu'il est payé là à 65 ans, qu'il vaut à peu près 800 000 $ mais cet immeuble-là génère des revenus chaque année en loyer. Permet des déductions, permet aussi une exemption pour gain en capital parce que tu habites une partie de l'immeuble. Donc, ça crée des différences de valeur extrêmement grandes. Ce qui veut dire que dans le fond, pour rouler en voiture de luxe, emprunter souvent à 70 % à long terme, c'est-à-dire on parle de 5, 6, 7, 8, 9 ans, ben pour avoir l'apparence d'être riche maintenant, ben on se prive d'être millionnaire pour sa retraite d'une façon confortable, excuse. Mais Paul, bien vivre.
Oui, c'est une fable ce matin. C'est un peu la cigale et la fourmi. La fourmi qui, évidemment, travaille pour son immeuble à logement, tandis que la cigale se promène dans son véhicule de luxe.
Mais dernière chose, Paul, j'ai entendu Émilie Perrault tantôt parler de la poule aux œufs d'or.
Oui.
T'imagines-tu, bon madame, vous prenez quoi là? Le chèque pour mettre dans le REEE? Ou peut-être l'œuf pour vous acheter un REER? Hey, ça serait bon, hein?
Ça me serait bon pour faire ça.
Ça serait drôle. C'est monsieur, sûr. Vous êtes sur un voyage à 12 000? Tu sais, c'est pas bien ben raisonnable si votre CELI n'est pas totalement contribué.
Je pense que l'Auto-Québec trouve que ça serait un peu...
ça serait un peu drabe.
Ah, un petit peu. Bonne journée, à demain.
Salut.
7h24.